moi, si j'ai une attente vis-à-vis de l'élection présidentielle cette année, c'est la simplification avec un S majuscule, la simplification du code du travail, des exigences du contrat de travail.
Mélenchon, comme Hamon, propose des choses, beaucoup plus que les autres qui ne proposent pas grand-chose. Il faut renouveler les mécanismes démocratiques dans notre société.
Emmanuel Macron, oui, ça pourrait être un candidat. Si vraiment, Fillon, là, c'était avéré, et puis qu'il se dépatouillait pas mieux de ses histoires.
En fait, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui sort du lot, hein, pour moi. Hein. C'est encore juste, hein.
11 candidats, 4 favoris des sondages et près de 47 millions d'électeurs inscrits sur les listes. Nous sommes à 9 jours du premier tour de l'élection présidentielle et les marges d'incertitude, nous dit-on, n'ont jamais été aussi importantes. Que ce soit dans ces mêmes sondages et leurs intrusions multiples dans le quotidien des Français, que ce soit aussi dans l'esprit des électeurs, ces mêmes Français qui accusent les politiques de les avoir délaissés, les médias de ne plus leur donner assez la parole. Ces électeurs qui se sentent oubliés, tandis que le traditionnel clivage gauche-droite semble s'effacer progressivement de la carte électorale. Jamais autant d'électeurs indécis. Alors comment ceux qui vont voter se forgent-ils une opinion? Au cours des derniers mois, cette opinion a-t-elle fluctué au fur et à mesure de l'entrée en lice des candidats, des résultats des primaires, des meetings et des professions de foi, au gré des affaires, des déclarations et des programmes? 4 électeurs au fil de la campagne, c'est un reportage de Marion Chantreau. Pour écouter et commenter ce magazine, nous avons invité Nona Mayer, politologue, directrice de recherche au CNRS et rattachée au Centre d'études européennes de Sciences Po, co-auteur des Inaudibles avec Céline Braconnier et des Faux-semblants du Front National. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et nous sommes bien sûr en compagnie de Marion Chantreau. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous êtes allée à la rencontre de 4 électeurs aux profils et aux âges différents dans 4 régions de France et ces électeurs, 2 femmes, 2 hommes, vous les avez vus à 2 reprises en février et en avril dernier.
Oui, la première fois à 60 jours du premier tour. La pré-campagne bat son plein, l'affaire Fillon n'en finit pas de rebondir. L'écologiste Yannick Jadot vient d'apporter son soutien à Benoît Hamon. On ne connaît pas encore le programme précis d'Emmanuel Macron. Sans prétention de représentativité, l'idée était de suivre un panel sensible d'électeurs. Je me suis rendue en région parisienne, dans le Val d'Oise, pour évoquer avec une salariée de la grande distribution, mère de famille monoparentale, ses attentes pour cette élection. Une Française d'origine nigériane installée en France depuis 17 ans. J'ai aussi été en Mayenne chez un jeune agriculteur qui a repris l'exploitation familiale en 2009 en pleine crise du lait. Il pratique avec sa femme une agriculture conventionnelle, a participé aux manifestations d'éleveurs ces derniers mois et se dit déçu de ce quinquennat. Autre étape en Rhône-Alpes, dans la Loire, à la rencontre d'une femme chef d'entreprise. Son travail, c'est sa vie. Et les attentes de cette dirigeante de PME portent surtout sur l'économie. Les politiques, elle les perçoit plutôt comme des semeurs d'embûches, éloignées des difficultés des entrepreneurs. Enfin, à Poitiers, j'ai rencontré un retraité de 65 ans dont le cœur bat à gauche. Mais quelle gauche aujourd'hui ? Le socialisme ne veut plus dire grand-chose pour cet homme qui aimerait un changement radical de société. Aucun d'entre eux n'adhère à un parti. Ils ont accepté de se livrer, sans phare, de parler de leur quotidien, de politique, même si parfois leur entourage, leur famille, plus réticents, leur ont déconseillé l'exercice. Entre février et avril, donc, on a suivi la campagne avec eux.
Et on écoute votre reportage qui commence dans le Val d'Oise, chez Oumou Mona Yajo. Elle vous a reçu dans son 3 pièces, au 5e étage d'une HLM de Pontoise.
J'ai 47 ans, j'habite Pontoise. J'ai à ma charge 3 enfants, j'en ai 4 en tout. Et je travaille en tant que hôtesse d'accueil chez Auchan.
À temps complet
Non, je suis à temps partiel, 30 heures.
Vous aimeriez travailler plus?
C'est choisi. Pour l'instant, c'est ce qu'il faut. Parce que j'ai aussi les enfants, je suis une maman seule. Donc il faut un petit peu des deux.
Un peu jongler.
Voilà, il faut jongler.
Avec l'emploi du temps.
Voilà. C'est pas toujours facile. Il y a peut-être des métiers pires. Après, tant qu'on n'a pas de problème de santé et qu'on est épanoui dans ce qu'on fait, je pense que c'est l'essentiel.
Vous avez vu de mois en mois l'automatisation des caisses arriver. Ça, c'était une de vos craintes.
Oui, oui, oui. Et ça reste vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de licenciement. Je pense qu'il n'y en aura pas. Mais sauf que le que ça crée des emplois, bah, c'est remplacé par des machines. Ouais. C'est dans ce sens-là.
L'ouverture le dimanche, ça peut venir aussi chez vous
Oui, d'habitude, on ouvre 5 dimanches par an. Et là, on va devoir ouvrir, si ma mémoire est bonne, 11 ou 12 à partir de maintenant, parce que la loi a changé.
Vous êtes prête à travailler le dimanche
Non.
Même pour gagner plus
Même pour gagner... Enfin, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. C'est là qu'on peut passer du temps en famille. Et ça, c'est important. Moi, je suis une maman seule avec mes enfants. Le dimanche, je passe dans la cuisine à cuisiner pour la semaine. Et si on m'enlève le dimanche, l'organisation, ben, je ne sais pas.
Pour parler de politique un peu, vous me disiez que vous aviez l'habitude de voter à gauche.
J'ai toujours voté à gauche. J'ai voté François Hollande la dernière fois.
Nous sommes ici, mes chers amis, pour changer le destin de notre pays. J'ai conscience de la tâche qui est la mienne. Incarner le changement.
Le changement, c'est maintenant, ça vous avez...
Oui, c'est ça. Au programme, oui, j'étais un petit peu... je me suis laissée rêver, mais ça il n'a pas répondu à nos attentes.
Vous êtes déçue?
Ah oui, complètement. Et là, je casse les barrières et je me dis, je ne veux plus entendre gauche, droite, milieu, je veux juste écouter les programmes. Et celui qui me proposera un programme qui sorte de l'ordinaire, eh ben... Je pencherai plus pour cette personne-là.
Parce que là, le quinquennat passé, qu'est-ce qui vous a déçu par rapport aux promesses ou par rapport aux orientations qui ont été faites
Je n'ai rien vu de...
Ouais.
Sur la famille, moi qui suis famille monoparentale, pas grand-chose.
Vous avez l'impression qu'il a un peu délaissé les salariés, comme vous par exemple, les employés
C'est nous qui faisons les entreprises, hein. Il faut qu'on pense à nous d'abord.
Alors, qu'est-ce que vous attendez sur quelle thématique vous les attendez au tournant et...
Le logement, l'éducation, la famille. En fait, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui sort du lot, pour moi. Hein. C'est encore juste. Hein. Macron...
Qui se dit ni de droite ni de gauche,
oui.
Qui allait faire du porte-à-porte.
Je trouve qu'il a... Une carrure et physique qui me plaît, qui fait que mais je le vois bien. Il y a que ça, hein.
C'est
pour le fun. Hein. Voilà, c'est juste pour le fun. Et je disais, oui, je le vois bien, lui, président de la République, mais c'est juste pour le fun et c'est juste par rapport à son physique.
Marine Le Pen, vous en pensez quoi ?
Marine Le Pen, je pense que la France n'est pas encore très prête. Mais je disais ce matin à mon père, qui est au Sénégal, que si là, celui qui arrivera aux prochaines élections au mois d'avril, ne fait rien qui sorte de l'ordinaire, on y arrivera soit dans 5 ans, soit dans 10 ans maximum. On est fatigué de tout ce qui se passe, on s'est lassé en fait du système de différentes politiques jusqu'à maintenant.
Qui, pour vous, droite et gauche, ça a été pareil?
C'est pareil maintenant, droite, gauche.
Alors c'est un peu ce que dit Marine Le Pen.
Oui, elle a raison Marine Le Pen.
L'idée, c'est de dire, en France, un Français doit être prioritaire dans son accès au logement social, prioritaire à compétences égales pour l'accès à un emploi.
Je n'ai rien contre l'immigration, mais je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas dire oui à tout et à tout le monde. Il y a des personnes qui sont dans le pays et qui n'ont rien à manger, qui dorment dehors et tout ça. Je pense qu'il faut déjà qu'on mette un truc carré. Tous ceux qui sont déjà là, les Français ou autres, soient déjà épanouis.
Vivent mieux.
Et s'il en reste, maintenant qu'on donne un petit peu aux autres. Mais bon, on n'en vaut pas encore.
Ouais. Parce que vous, ça serait impossible de voter pour elle.
Je ne dirais pas ça.
Il est rappelé pour votre sécurité que la descente doit impérativement s'effectuer sur un quai et à l'arrêt. Ne tentez en aucun cas de descendre lorsque le train est en mouvement.
Direction l'ouest de la France, à présent, une terre où le Front National ne prend pas, la Nouvelle-Aquitaine, une des rares régions sauvées par le PS aux dernières élections. Nous nous rendons à Poitiers, une ville de près de 90 000 habitants.
Alors là, c'est du riz bio, du riz thaï bio, semi-complet.
Bernard Lucet a 65 ans, retraité du privé depuis 3 ans. Il appartient à la classe moyenne et réside dans un quartier pavillonnaire avec sa femme. Les retraités sont parmi les plus nombreux à voter aux élections.
La politique, je m'y intéresse depuis très longtemps. Je m'y intéresse de façon un peu plus précise depuis la crise de 2008. Je me suis plus informé sur les aspects économiques et financiers qui régissent notre société, en fait, notre monde. J'ai un passé autrefois dans ma jeunesse où j'étais, j'étais engagé, milité par rapport au Larzac.
Et vous votez à chaque élection ?
Oui, je vote à chaque élection, très nettement de gauche, mais pas pour des raisons partisanes, évidemment, pour des raisons profondes. La notion de gauche, c'est quand même pour moi associé à une justice sociale, c'est associé au respect de la dignité humaine, et faire passer la dignité humaine avant le business, avant le commerce. Voilà, c'est ça pour moi être de gauche.
Et ces valeurs, est-ce qu'elles sont toujours là à gauche, à votre avis ?
Elle pourrait l'être à gauche maintenant, peut-être avec ce que Hamon propose. Je ne sais pas de quelle manière il va se laisser manger ou pas par les socialistes qui ont gouverné pendant 5 ans d'une manière pas de gauche.
Vous êtes allé voter à la primaire ?
À la primaire, je suis allé voter pour que Sarko soit éliminé.
Donc vous êtes allé à la primaire de droite ?
Déjà, oui.
La primaire de gauche, vous êtes allé ou pas ?
La primaire de gauche, j'y suis allé.
C'est votre candidat qui est ressorti ?
Et c'est Hamon, oui, qui est ressorti. Pour moi, je trouvais que ça se rapprochait vraiment le plus de mes aspirations. Parce que là, il y a quand même deux projets. Il y a le projet de Hamon, le projet de Mélenchon. Bien sûr, je n'ai pas 100% de l'adhésion parce que je vois bien les obstacles, les difficultés qu'il pourrait y avoir. Mais les générations futures, les questions du climat, les questions de la transition énergétique, etc. Ça, c'est quand même un enjeu très, très important.
Pour vous, un bon président de la République, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme ?
Mais oui, la vision à long terme, 15-20 ans, c'est le minimum qu'on puisse avoir quand on est candidat à la présidence. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de réorienter nos sociétés dans une démarche plus durable, quoi.
Le candidat du revenu universel, c'est sous cette étiquette que Benoît Hamon avait créé la surprise et remporté la primaire.
Je trouve que si Hamon ne revient pas là-dessus, il est perdu. Parce que les Français, un, ne sont pas prêts, sociologiquement, à accepter l'idée d'un revenu universel. C'est une idée qui n'est pas mûre, de toute façon. S'il ne rectifie pas la chose vite et très nettement, Ça va le perdre. Parce que la société n'est pas prête à accepter ce genre de choses, parce que la centralité du travail est extrêmement présente en France.
Donc vous seriez plutôt Hamon ou Mélenchon ?
Je ne sais pas. Mélenchon, comme Hamon, propose des choses, beaucoup plus que les autres qui ne proposent pas grand-chose. Il faut renouveler les mécanismes démocratiques dans notre société. Donc, effectivement, il faut une 6e République. Cette 6e République, quelle forme elle pourra prendre ? Celle de Hamon, celle de Mélenchon ou celle d'autres ? Je ne sais pas. Mais il est clair qu'il faut rapprocher les citoyens de la production des lois.
Vous seriez favorable à une alliance ?
Ah oui, absolument. Absolument. L'alliance Hamon-Jadot-Mélenchon, un, ça permettrait à Mélenchon d'atténuer, ou en tout cas d'adoucir un peu un certain nombre de propositions qui sont peut-être un peu fortes et qui peuvent faire peur aux Français ou qui peuvent faire peur aux Européens. Hamon, son programme, à mon avis, il faut le muscler sur justement ce qu'il va pouvoir jouer au niveau de l'Europe. Là-dessus, il faut vraiment qu'il soit musclé, qu'il arrête le revenu de base, ça c'est de la connerie. Les trois pourraient, Jadot, Hamon et pourraient faire un carton.
S'il y a un duel Fillon-Le Pen, est-ce qu'il peut se profiler ou Macron-Le Pen ?
Fillon-Le Pen, très compliqué d'aller voter. Moi, je vote pas. Je les laisse. Tant pis. Je vote pas. Je veux pas choisir. Non, là, je peux pas choisir. Macron, Le Pen, grand dilemme. Macron ne sera jamais en mesure de proposer une dynamique franchement nouvelle parce que c'est le produit, c'est l'enfant du libéralisme. Voilà, point. Donc, est-ce que Le Pen va m'effaroucher au point de quand même voter pour Macron ? Je me laisse cette possibilité, mais ce sera extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, c'est vote blanc ou pas aller voter.
Donc c'est le risque de faire passer Le Pen quand même au deuxième tour.
C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. J'y suis pour rien.
Après 400 mètres, tournez à droite, puis tournez à gauche.
De la ville à la ruralité, nous sommes toujours mi-février, à quelques jours du Salon de l'agriculture, et nous arrivons en Mayenne, département qui concentre le plus gros de la production laitière, où la droite et le centre arrivent généralement en tête des élections.
Après 100 mètres, vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés.
Les candidats ont entamé leur visite de ferme, un rituel qui fait sourire Franck Hiver, éleveur de 36 ans.
Ça me fait sourire à chaque fois, c'est hop, on prend 2 heures, 3 heures, et puis on va visiter une ferme. Mais est-ce que après, dans leur ministère et tout ça, ils se posent vraiment pour bien étudier les choses? Ça, c'est m'as-tu vu et tout ça. Donc, bon, c'est un peu ça le problème, quoi.
Franck Hiver pratique l'agriculture conventionnelle. Il nous fait visiter son exploitation de 65 vaches laitières qu'il a reprise en 2009 en pleine crise du lait.
Beaucoup d'heures, 7 jours sur 7, pas beaucoup de vacances. C'est vrai qu'à un moment, ça commence à peser, on va dire. La journée, c'est 6h le matin et puis le soir à 7h30, 8h. Quoi. C'est chargé et ça joue sur le psychologique un peu.
Vous arrivez à vous dégager un salaire de combien ?
La bonne question. Quand on compte tout, remboursement personnel et professionnel, tout ça, il nous reste 1200 euros pour vivre à 5 par mois. On fait avec ça.
Alors, en 2012, vous aviez voté pour qui au premier puis au deuxième tour ?
En 2012, premier tour, j'ai dû voter par François Bayrou, premier tour. Puis deuxième tour, ben, j'ai changé de candidat. J'ai voté pour la gauche, mais ils n'ont rien fait de ce qu'on attendait. Ça a manqué un peu de cap, un peu de force. Un coup, on fait une politique dans un sens, un coup, on fait une politique dans un autre. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais du mal à voter avec PS. C'est vrai qu'à mon avis, j'aurais du mal aujourd'hui. Ah ouais. Avec le candidat qui est sorti des primaires, ouais, je pense que j'aurais du mal.
Ouais, Benoît Hamon.
Ça répond à tout ce que les gens un peu veulent entendre aujourd'hui. Donc, c'est dire aux gens de travailler moins et puis d'avoir un revenu. Et puis, vulgairement, pour moi, c'est un peu le candidat des bobos de gauche.
Et du coup, vous seriez plus pour un candidat, par exemple, comme François Fillon ?
On se dit que, étant donné que c'est un candidat qui arrive qui est originaire de la ruralité, il peut avoir plus d'atomes crochus par rapport à ce qu'on recherche. Après, le personnage avec beaucoup de droiture, de rigueur, a incarné bien la fonction, on va dire, d'avoir un cap, une politique franche.
On est dans un pays qui consacre 57% de sa richesse nationale à la dépense publique. On a quasiment le record du monde. Donc quand je dis qu'il faut baisser la dépense publique, ça intéresse tout le monde. Et ça intéresse au premier chef les producteurs, les agriculteurs.
De toute façon, la France, elle a un déficit. Si on veut améliorer les choses, il va falloir faire des efforts. Bon, c'est quelque chose qui nous parle, nous, au niveau agricole, parce que on sait ce que ça représente un peu, les efforts au jour le jour, les efforts...
L'affaire Fillon, vous l'avez mal pris.
Bah, je suis dégoûté un peu, ouais. Pour quelqu'un qui devait donner la mesure, oui, je suis irréprochable. Personne ne sera mis en examen dans mon gouvernement, ce sera peut-être lui le premier. Donc. Bon, à des rémunérations comme ça pour des périodes aussi courtes, que ça dépasse les choses qu'on peut imaginer dans notre vie courante, nous, personnellement, c'est sûr que on se pose des questions. Je me dis que si je vote pour lui, ce sera à défaut d'autre chose.
Donc Emmanuel Macron, c'est un candidat qui pourrait vous...
Emmanuel Macron, oui, ça pourrait être un candidat. Si vraiment Fillon, là, on avait, c'était avéré, et puis qu'il se dépatouillait pas mieux de ses histoires, ce serait, pour moi, ce serait le, comment dire, ce serait l'alternative au Front National, ouais.
Parce que ça vote aussi Front National chez les agriculteurs.
Bah, de toute façon, oui. C'est attractif quand on l'entend comme ça. C'est quelque chose qui sonne. Tout le monde a un peu aussi, et tout le monde a envie d'entendre les gens qui sont un peu révoltés et qui sont un peu anti-système, mais sauf que aujourd'hui on est dans le monde européen, on va dire, donc au niveau agriculture conventionnelle et de filière, au niveau des filières, on n'est pas prêt pour des choses comme ça. Pour sortir de l'Europe, c'est plus possible. C'est attractif à court terme, mais dès qu'on va passer quelques mois, on produit plus en lait que ce qu'on consomme. On est basé un peu sur l'exportation quand même. Voilà, faut prendre du recul, je pense, par rapport à ces discours-là. Et puis, si on se reste sur nous-mêmes, on est mort.
Et vous l'étiez même cité, Maureen, bonjour.
Bien sûr, nous avons fait donc une offre commerciale de manière à se pouvoir vous satisfaire au mieux.
Dernière étape de ce périple, citoyen en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Loire, plutôt marqué à droite. Nous sommes dans les locaux d'une petite PME spécialisée dans la vente en mobilier urbain.
Mais c'est moi qui vous remercie. Une très bonne journée, au revoir.
En France, plus de 99% des entreprises sont des PME. À la tête de celle-ci, une femme avec qui nous avons rendez-vous.
Véronique Poirot, j'ai 52 ans et 3 enfants.
Par le hasard de la vie, je me suis trouvée chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je gère 4 petites structures qui représentent à peine 40 personnes.
Être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est compliqué.
Ça devient difficile. Ça devient difficile et je trouve qu'on a perdu le plaisir. Et ça c'est quelque chose qui est quand même assez révélateur de l'ambiance générale de notre économie.
Qu'est-ce qui est difficile alors ?
C'est le poids de toutes les contraintes, de toutes les obligations. Aujourd'hui, les marges sont réduites. Ça veut dire qu'il faut penser tout le temps à demain. Comment on va investir ? Il faut qu'on cherche à faire des économies. Il faut qu'on cherche la compétitivité. C'est difficile et il faut continuer de motiver son personnel. Il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent plus. Mais pour l'instant, ils vont pas forcément gagner plus. On a encore des salariés qui sont compréhensifs, qui sont assez faciles à manager parce qu'on leur explique la situation. Ils connaissent leur chef d'entreprise, ils connaissent l'environnement. Ils savent que si on leur dit que c'est difficile, ils savent que c'est la vérité. Ils nous croient et ils sont derrière nous et ils font ce qu'il faut.
Vous, quelles sont vos attentes principales pour cette élection ?
Moi, si j'ai une attente vis-à-vis de l'élection présidentielle cette année, c'est la simplification avec un S majuscule, la simplification du code du travail, des exigences du contrat de travail. Simplifier, c'est une de mes attentes, en tout cas. Il faut effectivement qu'on nous libère d'un certain nombre de contraintes au niveau des PME, des TPE. Il y a deux candidats, messieurs Fillon et Macron, qui nous parlent de ces deux points.
La vie des entrepreneurs, des professions libérales doit être facilitée. Je veux qu'on entreprenne, qu'on réussisse, qu'on prenne des risques plus facilement. Je veux simplifier les normes pour toutes celles et ceux qui créent, qui entreprennent. Et qui font.
J'espère que tout ça va s'éclaircir assez rapidement et qu'on pourra être capable de lire clairement les idées des uns et des autres. Pour certains, il y a des propositions populistes et inadaptées à la réalité du monde économique. Mais parallèlement à ça, il y a des propositions pour les entreprises qui semblent assez cohérentes par rapport à la réalité du terrain. Et ça m'a un peu interpellé. J'ai des valeurs humaines qui ne correspondent pas à ce que prône Madame Le Pen. Mais par contre, quand on lit effectivement les actions qu'elle souhaite soutenir pour les entreprises, forcément, on peut être un petit peu intéressé. Alléger la complexité administrative et fiscale, abaisser les charges sociales sur les TPE, PME, bien évidemment, ça parle à nombre de chefs d'entreprise de PME.
Pour vous, un État, ça doit fonctionner comme une entreprise.
C'est une très grosse entreprise. Pour moi, un président de la République, on peut le comparer à un chef d'entreprise ou à un coach sportif. Il lui faut du charisme, il lui faut une vision globale de l'intérêt général. Des capacités d'écoute, d'analyse et des capacités à décider et à tenir le cap.
Un peu plus d'un mois a passé. François Fillon a été mis en examen pour détournement de fonds publics et se dit victime d'un cabinet noir. La marche pour la 6e République de Jean-Luc Mélenchon a réuni 130 000 personnes à Paris et le candidat de la France Insoumise poursuit son ascension. Les défections d'élus socialistes se multiplient dans le camp de Benoît Hamon au profit de son concurrent d'En Marche, Emmanuel Macron. Marine Le Pen, visée elle aussi par des affaires, refuse de se rendre à toute convocation policière et continue d'opposer les patriotes aux mondialistes. Ceux qu'on nomme les petits candidats ont, eux, tout misé sur le débat à 11 pour faire entendre leur voix dans cette campagne. Nous sommes maintenant début avril, à moins de 3 semaines du premier tour. Bernard, Oumou, Véronique et Franck y voient-ils plus clair ? Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors un café ?
café et un thé ?
On va voir.
Ouais, un café, ouais, ça sera pas mal.
Donc deux cafés ?
Ouais. Vous êtes déçu que Mélenchon et Hamon n'aient finalement pas décidé de s'allier ?
Non, c'était, je ne suis pas déçu. C'est tout à fait logique que Mélenchon ne s'allie pas avec Hamon. Il y avait un accord potentiel entre Hamon, Mélenchon et Jadot qui n'a pas pu se faire. Il a refusé d'ailleurs, hein, Hamon. Puis de toute façon, Mélenchon associé à Hamon, c'était se suicider quelque part. S'associer quelque part avec ceux qu'il condamne depuis longtemps. Donc moi, c'est clair que Mélenchon a des postures un peu radicales, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire l'économie d'une certaine radicalité. Et Hamon a une radicalité dans son programme, mais je doute fort qu'il y ait une radicalité s'il était élu, puisqu'il serait élu avec les sociodémocrates hollandistes. Donc, il sera obligé d'écorner considérablement son projet.
Vous suivez les sondages quand même ? Vous pensez que ça influence ?
Oui, les sondages influencent. Les sondages ne sont pas à prendre à la lettre, à la virgule près, mais ils donnent des tendances.
Parce qu'on voit que justement, Jean-Luc Mélenchon est en train de monter un peu dans les sondages. Est-ce que ça joue sur votre choix ?
Oh, pas du tout. Pas du tout. Ça ne joue pas sur mon choix. Que Mélenchon monte, après-demain, il peut descendre. Hein. C'est-à-dire qu'il sort un truc et puis tout le monde va lui tomber dessus parce que... voilà. Non, c'est très volatile. J'hésitais entre Mélenchon et Hamon. À l'évidence, ça sera Mélenchon parce que j'ai quand même le sentiment que son projet vis-à-vis de l'Europe, qui pour moi est quand même quelque chose d'essentiel, que rien ne pourra se faire sans modifier sensiblement les contraintes européennes. Donc son projet par rapport à l'Europe, je crois, mérite d'être tenté.
Vous pensez qu'il peut gagner, Mélenchon ?
Non, je pense pas. Bon, il peut gagner quelques points, mais c'est vrai que...
Même pas passer le premier tour ?
Non, je ne pense pas qu'il puisse passer le premier tour, à moins que Macron s'écroule.
Mais vous voulez quand même voter pour lui, premier tour ?
Non, moi je vote pas utile. Hein. Ouais. Terminé. Non, je vote pas utile. Bon, je veux dire, ce vote de conviction, s'il gagne suffisamment de points, il devra peser. Il pèsera. Et peut-être qu'il sera de nature à recomposer la gauche dans le futur. Donc, il faut garder ce vote de conviction, justement, par rapport à la recomposition politique du futur. C'est très, très important.
Bonsoir à tous, bonsoir Laurence.
Bonsoir Ruth.
Nous vous proposons ce soir un débat inédit, un débat sans doute historique, qui rassemble pour la première fois la totalité des candidats à la présidentielle avant le premier tour. Et c'est évidemment en direct sur BFM TV, CNews, RMC et Dailymotion. Pendant 3 heures environ, nous vous proposerons de débattre des préoccupations majeures des Français.
On essaye de suivre et de faire en sorte que nos choix se portent sur un tel ou tel. Mais c'est toujours difficile, parce que les candidats, plutôt que de nous parler pendant leur campagne, ils passent leur temps à se tirer des balles dans les pieds. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'ils nous parlent, c'est ça qu'on a envie d'entendre et pas des règlements de compte. Et moi, j'ai envie d'y voir plus clair, j'ai envie qu'ils proposent des choses sur la famille, la sécurité... L'éducation nationale, comment ils vont remplacer les professeurs absents, des choses comme ça et pas des règlements de compte.
Ouais, vos attentes, on en avait parlé la dernière fois, ça n'a pas changé.
Non. Le pouvoir d'achat, j'en entends pas parler beaucoup. Pourtant, c'est très important. Les impôts, on parle beaucoup des sociétés, où c'est qu'on nous met dans tout ça? Je voterai pour celui dont le programme m'inspire le plus.
Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas un.
D'aujourd'hui, c'est encore un peu flou. Hein. Mon choix n'est pas porté sur un en particulier.
Lesquels peuvent être dans le peloton ?
Un petit peu Mélenchon, parce que je sens un peu plus de sincérité dans ce qu'il dit. Après...
Vous avez regardé justement un peu certains débats ou lu des choses ou écouté
Oui, on en parle beaucoup avec mes collègues au travail.
Ouais.
Et
vous avez regardé aussi à la télé?
Oui, j'ai regardé aussi...
Le débat à 5?
Le débat. J'ai regardé deux débats. Ouais. Il est plus sensé, il est plus terre à terre dans ce qu'il dit. Macron, avant, il se défendait, il nous proposait un petit peu de choses, mais maintenant, il reste un petit peu, on a l'impression que stratégiquement, il ne veut plus rien dire, en fait. Ouais.
Donc Macron...
Je ne sais pas.
Là, vous êtes perdu.
Oui, il est peut-être temps de décider, ouais. Parce que je ne voterai pas blanc. Mais je ne m'abstiendrai pas, mais il faudrait que je vote.
Chaque candidat aura une minute pour se présenter et pour conclure.
Et donc, nous refusons d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça illustre...
Ce coup-là, vous êtes pour la police.
Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège.
Moi, les petits candidats, je kiffe. Je kiffe les petits candidats parce qu'ils portent plus ce qu'on attend. Mais après...
Lesquels, par exemple?
Moi, j'aime bien... comment il s'appelle Poutou, oui. Poutou, il est excellent. C'est pour ça que j'ai dit... Tous les petits candidats nous parlent plus. Leur langage nous parle. C'est pas codé, c'est pas... On s'y retrouve.
Mais Philippe Poutou, vous pourriez voter pour lui?
Oui, pourquoi pas? Dans ce cas-là, ça ne sera pas tellement utile. Entre guillemets, ça va compter un petit peu pour du beurre. Mais au moins, pourquoi pas?
Un bon président de la République pour vous aujourd'hui?
Pour moi, c'est un président exemplaire, celui qui montre exemple. Encore, l'erreur est humaine. Hein. On a envie de dire, François Fillon s'est excusé lors de son meeting de ce qu'il a fait par rapport à sa famille. Et là, il revient en disant qu'il n'a rien fait de mal. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Enfin, il n'est pas digne de nous représenter. Et le Front National, c'est pareil. Hein.
C'est pareil?
Non.
Parce que la dernière fois, vous m'aviez dit, Marine Le Pen, elle peut avoir des idées qu'on entend.
Oui, elle dit des choses qu'on peut entendre. Mais là, je trouve qu'elle va trop loin. Quand elle dit qu'il faut qu'on sorte de l'Europe, je ne pense pas que ce soit une meilleure idée. Ça, non. Et sur l'immigration, je trouve que ça va plus. Elle veut séparer les droits. On a l'impression qu'elle veut fermer la France, elle veut l'isoler. Pour moi, ça va trop loin.
Et c'est l'heure du journal présenté par Bénédicte Robin. Bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Quel est le rapport de force? Quel est l'état d'esprit des Français à moins de deux semaines du premier tour de la présidentielle? C'est le sujet d'une enquête Ipsos pour France Télévisions et Radio France qui vient de paraître.
Oui, d'abord, toutes les intentions de vote ne se valent pas. Les électeurs de Marine Le Pen et François Fillon sont les plus déterminés. 79% assurent que leur choix est définitif.
Effectivement, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'un candidat à la lecture de son programme.
Véronique Poirot, chef d'entreprise dans la Loire.
Je savais pratiquement, mais j'avais besoin encore un petit peu de temps. J'avais besoin peut-être de digérer tout ce qui arrivait comme information sur des sujets autres que la politique politicienne. Et aujourd'hui, en se concentrant sur les programmes, j'ai validé mon choix.
Lequel ?
Je vais voter pour Monsieur Fillon. Bon, c'est ma conviction, c'est mon orientation, c'est
Vous aviez
choix.
Voté pour lui à la primaire?
J'avais voté pour lui à la primaire. Comme tout le monde, les affaires m'ont fait douter, les affaires m'ont déçu. Parce qu'il faudrait que ces gens-là, comme je vous l'ai dit, soient davantage à la hauteur quotidienne de leurs électeurs.
Oui, vous attendiez de voir ce que disait la justice. Bon, il a quand même été mis en examen.
De toute façon, on savait qu'il allait être mis en examen. On a la présomption d'innocence, la justice. J'ose croire que la justice, on peut encore croire en elle, et elle décidera si oui ou non Monsieur Fillon a fait des choses légales ou pas. Mais en tout cas, il est candidat depuis longtemps, donc son programme est très détaillé, on sait où on va. Donc forcément, on a plus de visibilité que sur des programmes de candidats comme M. Macron qui sont arrivés un petit peu au dernier moment dans la course.
Emmanuel Macron, vous aviez quand même hésité à un moment donné ?
Le langage qui tient, forcément, est intéressant. Il y a des idées qui sont tout à fait satisfaisantes pour les entreprises. Par contre, il faut être capable de mener une équipe, d'être suivi, d'avoir du poids. Est-ce que demain, les gens qui sont venus se rallier à M. Macron seront fidèles ? Moi, c'est juste mon interrogation. Est-ce qu'on pourrait gouverner avec M. Macron ? Donc oui, on a hésité, mais le problème, c'est avec un risque d'instabilité. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça sur les 5 prochaines années.
Savez-vous déjà pour qui voter le 23 avril ? Une question à laquelle beaucoup d'électeurs ont encore du mal à répondre.
Bon, ouais, non, je ne sais pas encore.
Franck Hiver, agriculteur en Mayenne.
Je ne sais pas encore. Je voyais encore, il y avait Fillon ce matin à la télé. Bon, on écoute. Non, je suis à 100%, non, je suis pas sûr à 100%.
Vous pourriez voter pour lui quand même, malgré tout ce dont on a parlé ?
C'est une possibilité, mais c'est plus dans l'application. Après, dans les idées, je pense que les idées sont bonnes. C'est dans le mode de fonctionnement, là. Il devient moins bon qu'il n'a été en communication. C'est vraiment le fait de dire oui, c'est un complot, ça va bien 5 minutes, quoi. Il se ferme, on sent le gars buter, quoi. Donc, non, c'est un peu. Le programme, à mon avis, est bon, mais c'est la crédibilité, elle n'est plus là. Et puis même, dans le personnage franc, volontariste, tout ça qu'on avait après la primaire et tout ça, là, avec toutes ces histoires, et puis, de toute façon, c'est moi contre tout le monde, ça donne pas le même enthousiasme qu'avant, ça c'est clair. Pour moi, il y a une histoire d'image qui colle plus avec l'envie qu'un nouveau président il doit donner aux gens, quoi.
Emmanuel Macron, vous pourriez voter pour lui ?
Ça reste dans les possibilités, ouais. Ce serait un renouvellement, on va dire. Ce serait quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui est dynamique aussi, on va dire. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il est à gauche, s'il est à droite, s'il y a qui va bosser. Il n'y a pas de proposition phare qui donne des lignes de conduite, quoi. C'est toujours trop flou. Donc, nous, il est venu en Mayenne. J'ai des collègues jeunes agriculteurs qui l'ont vu tout ça. Et j'ai vu des comptes rendus de ce qu'il avait dit. Le problème, c'est qu'il n'a pas répondu franchement aux questions. Il tourne autour et c'est pas du concret.
Parce que qu'est-ce que vous attendez concrètement
Nous, ce qu'on attend concrètement, c'est comment il va nous permettre de vivre de notre métier, de récupérer de la valeur ajoutée sur ce qu'on fait, quoi. De récupérer un prix à nos produits. C'est trop vague. C'est ça qui me gêne plus chez Macron.
Donc là, vous, Macron peut-être, et Marine Le Pen
Non, personnellement, non. Sauf que, oui, j'en parlais avec des gens là, il n'y a pas longtemps. Il dit, de toute façon, Le Pen, même s'il passe, elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale, et machin, donc elle ne pourra pas faire grand-chose. C'est un peu comme Trump, quoi. Il dit, moi, je ne veux pas voter gauche alors que je ne suis pas forcément de la gauche, qu'il disait. Donc ça me fait réfléchir, des choses comme ça.
Aujourd'hui, vous penchez plus pour voter Macron par défaut.
Ouais. J'attends de voir, mais ce serait, oui, aujourd'hui, pour moi, c'est Fillon-Macron. On exclut Mélenchon, Hamon et puis Marine qu'on a encore laissé sur la touche là aussi, même si ce serait le vote de facilité, à mon avis, ce serait le vote de facilité, voilà, tout le monde ils sont tous nuls et puis voilà, tiens, on va leur faire les pieds en votant Marine. Bon, ouais, c'est pas trop dans l'état d'esprit, ça. Ouais, je sais pas, c'est fou d'être indécis comme ça, c'est fou, hein.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture. 4 électeurs au fil de la campagne, au reportage de Marion Chantreau, et nous sommes en compagnie de Nona Maier, chercheur et politologue. C'est fou d'être indécis, disait à l'instant cet électeur. C'est vraiment fou, à quelques jours du premier tour. Ces indécis sont-ils réellement beaucoup plus nombreux que lors des scrutins précédents? Et si oui, pourquoi?
Eh bien, on a eu tellement de surprises, tellement de rebondissements, tellement d'affaires, de scandales, de changements de candidats, qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une très forte indécision. Oui, l'indécision n'a jamais été aussi forte avant un scrutin présidentiel à 9 jours du premier tour, on a encore, selon les sondages, disons à peu près 40%, entre un gros tiers et 40% de personnes qui ne savent pas si ils iront voter et pour qui elles iront voter.
Oui, parce qu'il y a la question de l'abstention éventuelle. Absolument. Liée à cette indécision.
Oui, l'abstention ne se déclare pas toujours facilement dans les sondages, mais en gros, il suffit de se contenter de ce chiffre, à peu près 40% de personnes qui n'ont pas encore fait leur choix, mais il est vrai qu'il y a eu trop de rebondissements d'une part, et par ailleurs, ce sont des candidats mis en avant qu'on ne connaît pas encore très bien. Par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Macron, d'ailleurs, ils vous le disent, ceux que vous avez interrogés. On ne sait pas encore très bien ce qu'il vaut, ni quel est son programme. Ce n'est pas une valeur sûre, tandis que ceux qui se présentent depuis longtemps, on sait un peu plus. Par exemple, François Fillon.
Indécision, d'accord, mais est-ce qu'on pourrait la voir, cette indécision, dans un sens positif? Est-ce que cela veut dire que le vote sera plus réfléchi?
Écoutez, ça fait déjà longtemps qu'on a des phénomènes de volatilité, de réflexion. Ça fait, on parle, ce débat, ça fait 20 à 30 ans qu'il dure. Mais à ce stade, oui, ce qui me frappe à écouter les personnes que vous avez interrogées, c'est combien elles s'informent. C'est-à-dire, elles disent que c'est pas simplement les sondages, c'est la presse, elles sont allées regarder les programmes. Donc là, on apprend qu'il n'y a pas du tout de dépolitisation. Cette indécision et cette abstention qui se dessine, ça ne correspond pas du tout à un rejet de la politique, c'est simplement l'idée qu'on a de plus en plus de mal à faire son choix.
Une question de Marion Chantreau.
Justement, la manière dont les électeurs s'informent sur le terrain, certains me disaient qu'ils regardaient les chaînes d'infos continues uniquement, les débats à la télé, d'autres préfèrent lire des articles ou comparer sur des sites internet les propositions, les programmes. Les informations qu'on reçoit, ça influence, ça va jouer sur le vote?
Oui, bien sûr, mais il faut bien voir deux choses. D'abord, toutes ces informations, elles ne résonnent pas sur une table rase. Vous avez des personnes qui ont déjà des convictions politiques, donc qui iront chercher en priorité une information plutôt que l'autre. Et la même information, selon le camp politique auquel vous appartenez, aura des effets différents. Dans un cas, je veux dire, chez des proches de Marine Le Pen, ils vont dire ah, ça c'est un acharnement contre elle, tandis que quelqu'un qui est contre elle et contre le Front National, ça nourrira sa méfiance à l'égard de la candidate. Par ailleurs, ces informations sont toujours filtrées par nos entourages, parce qu'il n'y a pas simplement l'information que l'on lit ou que l'on reçoit, mais elle le disait,
on en parle entre collègues,
on en parle en famille, on en parle avec des amis, et en fait, on n'a jamais autant parlé politique qu'avant cette élection. Et c'est là que se font et que se défont les opinions. Il y a dans notre entourage des gens à qui on fait plus confiance que d'autres, des leaders d'opinion. Donc il ne faut pas oublier cette force des liens interpersonnels qui filtrent l'information.
Les réseaux sociaux aussi qui occupent un rôle de plus en plus important, ce qui stigmatise en fait, ce qui rend des cercles peut-être de plus en plus restreints.
Oui, ce qui segmente en fait les gens, parce que là, dans les réseaux sociaux, on a plutôt tendance à aller avec les gens qui pensent comme nous, par affinité. Donc effectivement, ça n'ouvre pas l'information.
Peut-on parler d'une volatilité électorale, d'une élection à l'autre également?
Bien sûr, même d'un tour à l'autre de l'élection. Je veux dire, là aussi, le débat, il commençait il y a une trentaine d'années avec l'idée qu'aujourd'hui, les électeurs et les électrices, ils étaient plus instruits, plus informés, que les liens traditionnels avec les partis, il y avait une érosion des clivages sociaux, religieux, partisans. Bon, donc que l'électeur était plus imprévisible. Donc ça, effectivement, il y a une volatilité plus grande de l'électorat.
Et alors, si on part du principe que le traditionnel clivage gauche-droite a tendance à s'estomper, qu'est-ce qui construit aujourd'hui, qu'est-ce qui cristallise une intention de vote, qu'est-ce qui convainc un électeur, qu'est-ce qui le déroute?
Attention, quand vous demandez aux personnes dans les sondages de se situer elles-mêmes sur un axe gauche-droite, elles le font très volontiers. Elles savent. Et selon la position qu'elles adoptent sur cet axe gauche-droite, elles n'auront pas les mêmes valeurs. Si vous prenez par exemple l'électorat de Marine Le Pen, vous voyez que plus on s'approche de la droite de l'échelle gauche-droite, plus les chances de voter pour elle augmentent. Et Mélenchon, c'est exactement l'inverse. Donc, il ne faut pas jeter trop vite le clivage gauche-droite. Mais ils ont du mal à classer certains candidats, et en particulier quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui apparaît trop à gauche pour une partie de la droite et trop à droite pour une partie de la gauche. Et surtout parce que entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on retrouve ce clivage qui apparaissait à partir du vote sur Maastricht et sur 1992, c'est-à-dire un nouveau clivage qui effectivement coupe à travers le clivage gauche-droite pour le coup, et qui oppose les pro et les anti-européens, les pro et anti-ouverture des frontières, les pro et anti-immigration, et qui nous donnait un autre clivage opposant les partis extrêmes qui était plutôt contre l'Europe, pour des raisons radicalement différentes. Du côté de la gauche et de l'extrême gauche, c'était contre l'Europe du grand capital. Du côté de la droite extrême, c'était parce que l'Europe est une porte ouverte à l'immigration et une menace à l'identité et à la souveraineté nationale. Mais c'est ce clivage-là qui brouille un peu les repères quand il s'agit de regarder Macron, Le Pen.
Une question de Marion.
Et on a l'impression que les électeurs votent plus aujourd'hui quand même en fonction d'intérêts personnels que plutôt que dans une logique sociétale ou en fonction de valeurs, de grandes valeurs. Est-ce que c'est révélateur d'un certain individualisme, voire d'un repli sur soi ?
Non, quand j'entends parler vos interviewés, la chef d'entreprise dit très bien qu'elle a des valeurs humanistes et que ce ne sont pas celles de Marine Le Pen. Donc oui, on a...
Même si elle a des idées qui peuvent la convaincre chez Marine Le Pen.
Oui, mais elle explique bien qu'elle a des valeurs et que finalement c'est cela qui va la détourner du vote Marine Le Pen. Donc c'est plus compliqué et on peut être individualiste tout en ayant au cas par cas des solidarités collectives. Il y en a qui ont une solidarité avec les agriculteurs et les problèmes des agriculteurs, d'autres avec les problèmes des chefs d'entreprise, l'autre avec qu'est-ce que c'est être aujourd'hui hôtesse d'accueil dans un supermarché face aux problèmes de travail du dimanche et d'automation du travail. Donc c'est plus compliqué.
C'est intéressant aussi de s'intéresser un peu plus longtemps s'arrêter un peu plus longtemps sur le langage de ces électeurs, l'un qui parle de vote de facilité, l'autre de vote de conviction, de vote utile. Comment tout cela va s'articuler au moment de glisser son bulletin dans l'urne ?
Eh bien, je pense que justement, ils n'ont pas encore décidé. Si, il y en a deux qui ont très bien choisi et qui vont voter en fonction de leurs convictions, parce qu'ils ont regardé les programmes et parce qu'ils disent que finalement, c'est ce candidat que je veux, que ce soit la chef d'entreprise qui va voter pour François Fillon ou le retraité qui va voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, ce n'est pas aussi simple.
Vote de facilité, et vote utile.
Pour les autres, ils vont hésiter jusqu'à la dernière minute. Et on sent quand même, à travers les interviews, un petit peu le ras-le-bol de voter contre. Un petit peu le ras-le-bol du vote utile. L'idée que, bon, on voudrait voter en fonction de nos convictions, mais on a du mal à trouver chaussures à notre pied.
Et dans le reportage que nous venons d'écouter, il y a deux électeurs, vous le disiez, qui ont fait leur choix, deux autres encore indécis. Sont-ils représentatifs de l'électorat que vous étudiez, y compris justement dans les éléments de langage qu'ils livrent? On a le sentiment que ceux qui ont fait leur choix sont finalement très imprégnés des discours politiques, des formules médiatiques. On garde le cap, par exemple.
Ils sont plus politisés, oui, effectivement, et ils nous renvoient le discours des candidats. Mais effectivement, on ne peut pas généraliser à partir de 4 entretiens, mais à écouter comment elle s'appelle
Oumou.
J'entendais la parole d'un certain nombre de femmes élevant seules leurs enfants, employées de commerce, et qui avaient été tentées par un vote pour Marine Le Pen en 2012 parce qu'elles avaient le sentiment que pour une fois elles étaient représentées, parce que c'est une situation difficile au travail. Et en écoutant le plus jeune, l'agriculteur, oui, ça m'évoque aussi des choses que j'ai dans les entretiens. Et la difficulté qu'il y a à faire un choix quand on arrive jeune face à un vote tellement complexe dans lequel les repères habituels ont disparu.
Marion Fontron.
Justement, les jeunes, j'ai discuté un peu avec le fils d'une électrice, de Oumou, qui a 18 ans, primo-votant, et lui, il me disait « je ne me sens pas représentée, je pense que je vais voter blanc ou je vais m'abstenir ».
Oui, c'est important les primo-votants, c'est un peu plus de 3 millions d'électeurs. Et en fait, dans la vie, jusqu'à il y a un certain temps, on prend des habitudes de vote, on a des repères. Tandis que quand on va voter pour la première fois, c'est plus difficile, surtout dans une élection aussi complexe avec tellement de candidats et tellement de rebondissements. Et donc, je comprends tout à fait la tentation du vote blanc. Ça fait longtemps qu'il y a une demande, ce qui nous montre tout simplement que l'offre n'est pas adaptée aux besoins.
L'indécision aussi, elle peut se traduire sur l'abstention ?
Ah ben bien sûr. Je veux dire, les deux manières de refléter son indécision, c'est soit le vote blanc, le vote nul ou l'abstention.
Justement, vous dites, il y a des rebondissements cette année, il y a des faits de campagne inédits. Quelle différence dans cette campagne-là par rapport à 2012 ? Quel grand changement ? Les primaires, le poids des affaires, le fait qu'on ait des débats d'avant premier tour, ce qui est nouveau ?
D'abord, je pense qu'on est arrivé dans une situation où jamais un président de la République en exercice n'a autant déçu dans l'opinion, n'est arrivé à un niveau de rejet aussi fort. Encore plus que Nicolas Sarkozy, qui était rejeté comme le président des riches à la dernière élection. Donc je pense qu'il y a ça qui joue. Et puis on est dans un contexte qui est particulièrement, encore plus qu'en 2012, anxiogène, avec l'afflux des réfugiés, avec la série d'attentats terroristes qu'on a connus. Et enfin, jamais la désaffection à l'égard de la politique, pas simplement à l'égard du chef de l'État, n'a été aussi grande, puisqu'on arrive à 80% de personnes qui ont le sentiment que les hommes et les femmes politiques se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme nous, et près des trois quarts qui pensent que la classe politique, l'élite politique est corrompue, plutôt corrompue. Donc tout cela change par rapport à 2012.
Et ça, c'est quelque chose de profond qui va durer dans le temps.
Pour l'instant, c'est parti pour durer. Ça dépendra un petit peu des choix qui seront faits, des candidats ou candidates qui vont être portés au pouvoir et s'ils vont tenir ou non leurs engagements. Mais c'est de plus en plus difficile dans le monde où on vit. Il y a tout un débat pour dire que dans toutes les démocraties, c'est de plus en plus difficile de tenir ses promesses, qu'il y a une chose qui est d'être réactif à la demande des électeurs et l'autre d'être responsable, de diriger un gouvernement avec des contraintes qu'on ne maîtrise pas toujours, qui sont celles de la mondialisation.
Sur la question du Front National, on sent Franck, l'éleveur, prêt à franchir le pas. Il le dit pour la première fois. Or, on dit que le socle du Front National est solidement établi. Est-ce que c'est votre point de vue? Y a-t-il encore des personnes auxquelles Marine Le Pen fait peur? Est-ce que la présidente du FN a réussi son opération de dédiabolisation du parti?
Les deux sont vrais. On constate qu'elle a un socle d'électeurs qui tourne autour de 75 et plus. Ceux qui ont voté déjà pour elle en 2012, ceux qui, depuis dans les sondages, depuis quelques mois, nous disent qu'ils vont voter pour elle. Mais quand on demande, y a-t-il sur cette liste de partis, des partis pour lesquels vous ne voteriez en aucun cas, c'est encore le Front National et Marine Le Pen qui sont de loin les plus rejetés. Et son parti est encore considéré par 58% de la population électorale comme un danger pour la démocratie. Donc elle a un socle stable, mais c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Tout dépendra, en fin de compte, du degré de mobilisation respective de chacun de ses électorats.
Sur la question des sondages, il faut aussi vous poser la question, puisque les sondages sont fluctuants, ils sont quasiment quotidiens. Quel crédit peut-on aujourd'hui accorder aux sondages, même si c'est une question, j'allais dire, un peu banale, mais compte tenu des écarts qui sont très faibles aujourd'hui, on s'interroge forcément sur ce sujet.
Ça fait 40 ans qu'on s'interroge là-dessus. Je me souviens d'un livre qu'on avait co-dirigé avec Frédéric Bon dans les années 70. Et il s'appelait « Les sondages peuvent-ils se tromper ?» Il y avait déjà eu plein de scandales. Mais, donc il faut prendre les sondages avec des pincettes parce que les sondages ils reflètent l'opinion à un moment du temps. Quand vous avez 40% d'indécis, le sondage ne peut pas dire grand-chose. Et surtout, quand vous avez quatre candidats qui arrivent dans un mouchoir de poche, on est dans la marge d'erreur, les sondages ne peuvent plus nous informer à ce stade.
Selon vous, aujourd'hui, on peut arriver précisément avec ces quatre candidats à toutes les combinaisons possibles pour le premier tour, à l'issue du premier tour de cette élection?
À toutes les combinaisons possibles entre les quatre qui arrivent en tête en ce moment, oui.
Oui, tout est aujourd'hui possible, tout est encore ouvert. Qu'est-ce qui pourrait dans cette...
Il y en a deux qui ont, si on regarde ce qui s'est passé avant, il y en a deux qui se dégageaient jusque-là un peu plus, qui étaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais là, on voit des rapprochements. Donc, moi, franchement, je me garderais bien de faire la moindre prédiction.
Alors, on ne vous demande pas effectivement de pronostic, forcément. Mais qu'est-ce qui fait que dans cette dernière ligne droite, telle ou telle peut basculer, peut l'emporter, peut grimper à nouveau? On a l'impression aussi que les candidats, il y a ceux qui sont partis trop vite, trop tôt. On a toujours un peu cette impression-là.
Oui, mais je crois que plus généralement, tout va se jouer dans ces derniers jours en fonction, bien sûr, des rebondissements de la campagne, mais aussi en fonction des conversations politiques, des discussions qu'on aura avec son entourage, avec ses collègues de travail, de toutes les informations supplémentaires qu'on pourra gagner et de tous les facteurs qui vont inciter les personnes à se mobiliser. C'est très important d'avoir autour de soi des gens qui vont voter, qui vous encouragent à aller voter. Donc c'est là que tout ça va se jouer pendant la dernière ligne droite.
Le vote des jeunes, vous croyez qu'il prendra une part importante dans cette campagne? Les nouveaux jeunes électeurs, vous les voyez voter vers qui, pour qui?
D'abord les jeunes, ça ne veut rien dire, ça dépend quels jeunes, selon qu'ils ont fait ou non des études, selon que ce sont des garçons ou des filles, on n'a pas le même rapport à la politique. Et je pense pense que les jeunes, comme vous dites, c'est un peu un miroir grossissant des tendances qui traversent le reste de l'électorat, puisqu'ils n'ont pas encore d'habitude de vote. Donc c'est comme une loupe. Hein. Et donc, je pense qu'ils sont traversés par les mêmes clivages. Et les quelques sondages qui ont été faits auprès des jeunes en particulier montrent qu'il y a un survote en faveur de Marine Le Pen d'un côté et de Jean-Luc Mélenchon de l'autre.
Une question de Marion Chondron.
Une question par rapport notamment à l'image du président de la République. Bon, c'est une question classique, mais on a l'impression que c'est important quand même pour eux à les entendre encore ce charisme, cette image, l'homme providentiel.
L'élection présidentielle est la plus personnalisée de toutes les élections. C'est celle qui attire de plus. Il y a quand même encore le sentiment, malgré tout, que le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions de la Ve République et que s'il faut réformer les choses, c'est à partir de là, c'est autour de cela. Donc, bien sûr, c'est pas du tout un rejet de la politique ni des institutions. Je pense qu'il y a encore le sentiment que ces élections sont importantes. Moi, j'entends beaucoup de gens dire, au fond, c'est peut-être les élections de la dernière chance. Si on veut vraiment changer quelque chose au système, dans le monde dangereux qui nous entoure, dans cet avenir d'incertain, il est très important de faire le bon choix dans cette élection.
Ce qui veut dire que le poids que vous donnez à cette élection, enfin que les électeurs donnent à cette élection selon vous, peut aussi peser sur l'indécision qui est la leur, la difficulté de faire le bon choix.
En tout cas, ça va peser, il y aura un sentiment d'urgence, ça va sans doute faire que la proportion des indécis va diminuer un petit peu dans ces derniers jours.
Merci Nona Mayer. Je rappelle le titre de vos deux derniers ouvrages, Les Inaudibles et Les Faux-Semblants du Front National aux presses de Sciences Po. Il est 17h30 sur France Culture, 4 électeurs au fil de la campagne. C'était le magazine de la rédaction, magazine signé Marion Chantreau, réalisé par Yacine Bouzard, à la technique Théo Gomard. Et vous pouvez réécouter bien sûr ce magazine sur France Culture.